I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue ici dans On the Verge, un podcast qui parle de sexe au masculin, sans tabou ni jugement. Nous allons passer un petit moment ensemble avec vous, mon invité et moi. Il me semblait intéressant d'entendre les hommes parler de leur intimité, de leurs tabous et fantasmes, de leur rapport au corps, à l'autre, le désir et la sexualité du couple aussi. Chacun de mes invités livrera sa vision et son rapport à sa sexualité, confiera son intimité, sans tabou, sans jugement. On the Verge commence maintenant. Aujourd'hui, c'est avec Mathieu que je suis. Mathieu, tu as 33 ans, 34 ans cette année.
Oui.
Et Mathieu, bah merci d'être là, merci de me faire confiance. Et je sais que c'est un peu impressionnant, mais ça l'est toujours aussi pour moi. Hein. Sache-le.
Non, non, mais écoute, pour l'instant, ça va, on est bien installé.
Ça va, on est bien installé, on est sur ce magnifique canapé rose. Mm-hmm. Mathieu, donc, tu sais que On the Verge, c'est un podcast qui parle de sexualité.
Oui.
On va découper l'entretien en trois temps. Donc, avant, maintenant et après. Mmh. Alors, pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, quel est ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité ?
Alors, mon tout premier souvenir, c'est... je ne saurais pas te dire exactement à quel âge, mmh. mais je pense que c'était autour de 6, 7, 8 ans, on va dire. Un touche-pipi, voilà, un touche-pipi, tout ce qu'il y a de plus normal.
Avec... Tout seul, avec une voisine.
Avec une jeune fille, avec une jeune fille qui faisait partie de ma liste de mes amoureuses. Parce que à l'école primaire, j'avais une liste. Du coup, la numéro 1 changeait toutes les semaines.
Bien sûr.
En fonction de ce qui s'était passé dans la cour de récréation. Et du coup, ouais, c'était dans ma chambre chez mes parents. Je l'avais invitée à venir jouer une après-midi. Puis on s'était enfermé dans la chambre et puis on est allé sous la couette. Et,
okay.
et on s'est montré nos...
D'accord. Le classique, le classique papa-maman.
Ouais.
Ok. On parlait de librement de sexualité chez toi ?
Oui, on en a toujours parlé librement, sans que ce soit, comment dire, sans que ça perde son sens, enfin, pas sa gravité, parce qu'il n'y a rien de grave là-dedans, mais c'était pas... mince, je trouve pas mes mots là, ça y est.
C'était pas tabou ?
C'était pas tabou. Mais c'était avec énormément de respect.
D'accord.
On n'en parlait pas pour rien. Il n'y avait pas de blague.
D'accord.
Il n'y avait pas d'humour autour de ça, mais c'était assez sérieux, mais on pouvait en parler.
T'en parlais plutôt avec ton papa, ta maman ?
Bah, plutôt avec... non, avec les deux, j'ai des souvenirs à table, en fait.
Ok, tu posais des questions et tu avais tes réponses.
Ouais, ouais, ouais. Et après, plus tard, mon père est venu beaucoup plus souvent m'en parler.
Ah oui ?
Quand il a découvert que j'avais une vie sexuelle.
Ah, un peu comme dans les films américains, tu sais, où le père vient.
Exactement. Il s'assoit à côté de moi sur mon lit
et
il me pose sa main sur ma cuisse et il me dit « Mon fils, il faut qu'on parle ».
Super.
Ouais, j'ai eu ça, ouais.
Et donc, par exemple, t'as quoi comme souvenir précis là-dessus ?
Ben, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une capote ? Enfin, le grand classique du papa qui s'inquiète...
Oh, c'est chouette.
Et qui a un rôle à jouer là-dedans, quoi, aussi, d'éducation sexuelle, quoi.
Donc, à leur façon, de façon plutôt bienveillante et dans la discussion, ils t'ont accompagné vers ta sexualité.
Ouais, complètement.
C'est super.
C'était pas omniprésent, hein, parce qu'une fois que ça a été clair que je savais faire et que j'avais aucun problème avec tout ça, après, on en a plus jamais reparlé.
Donc, tu t'es pas confié à eux après, quand t'as eu tes premières petites amies
Pas sexuellement, non.
Okay.
Sentimentalement, oui, beaucoup. Mais... tout ce qui se passe au lit reste au lit.
C'est marrant parce que parfois le sentimental peut être plus intime que le sexe physique.
Ouais.
Après,
ouais.
Non, mais je n'ai pas de jugement ou d'avis personnel, hein, mais c'est après ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très à l'aise de parler de leur sexualité, de ce qu'ils font dans leur lit, et ça va être beaucoup plus difficile de parler du sentiment, de dire à quelqu'un qu'il l'aime, etc.
Oui, alors moi c'est tout l'inverse.
D'accord.
Je peux m'étendre beaucoup sur. Sur mes sentiments, sur mes émotions, sur le plaisir en général. Mmh. Mais dès qu'on va toucher au sexe, à la sexualité, je vais être un peu plus discret, ouais.
D'accord. Les premiers flirts sont arrivés quand ?
Début collège, ma première rupture sentimentale qui m'a marqué. Mais c'était du flirt gentillet, on va dire fin collège.
Okay.
Premier flirt, ouais.
T'étais quel genre d'adolescent ?
J'étais plutôt introverti, petit gros, copain avec tous les bagarreurs qui me défendaient.
Ah, pas mal.
Et donc,
Stratégique.
Oui, mais j'étais un peu le suiveur,
mm-hmm.
ce qui était assez difficile pour moi avec les filles.
Ah oui, elles préféraient les bagarreurs.
Ouais, du coup. Évidemment.
Mm-hmm. Donc tu jouais après, t'arrivais à poser tes pions pour...
Ouais, en fait, j'ai réussi à séduire une jeune fille avec qui je suis resté pendant toute l'année de quatrième. Et donc, c'est avec elle que qu'on allait dans les booms et c'est avec elle que j'ai commencé à aller un tout petit peu plus loin que le smack à la fin du cours, quoi.
Ok.
Ouais.
C'était il y a 20 ans, hein, donc. Hein.
Oui.
Ça fait toujours un petit truc quand tu te rappelles
c'est vrai.
De ça. C'était donc il y a 20 ans. Ok, donc ça, c'est les premiers flirts.
Ouais.
Alors, évidemment, je vais te poser des questions qui sont peut-être parfois un peu directes, donc n'hésite pas à me dire Joker. Niveau masturbation, à ce moment-là, c'est là où les hormones sont un peu genre très présents.
Oui.
Donc j'ai eu plusieurs invités qui m'ont dit que voilà, c'était à ce moment-là où ils découvrent un peu leur corps et la masturbation rentre dans leur vie. D'autres s'y ont intéressé beaucoup plus tard. Et je cite un des garçons qui m'a dit que c'était une passion qu'il n'a jamais quittée.
Ouais.
Toi, à ce moment-là, comment ça se passe ?
Alors moi, ma première masturbation, ça a été une immense révélation pour moi. Je m'en souviens très très bien.
J'ai l'impression que c'est un peu le fil conducteur de toutes ces masturbations. C'est à chaque fois une révélation. Il se passe un truc.
Oui, il se passe un truc.
Okay.
Il se passe un truc nouveau physiquement et mentalement. On n'est pas prêt à ça. En fait, personne ne nous a dit que c'était ça. Et ça a été assez important dans ma vie. Et à la fois, je n'ai jamais été trop porté là-dessus. Bon, évidemment, quand on découvre ça, qu'on est Alors, je sais plus que. Je crois que j'étais au collège. Parce que c'est arrivé assez tard, en fait. Par rapport à mes copains qui en parlaient déjà.
Et tu te sentais comment quand tes copains en parlaient ?
Mais je comprenais pas comment il fallait faire, en fait.
Ok.
Et c'est venu tout naturellement.
Mmh.
Et après, ça a été. Après, ça a été assez présent. Non, pas forcément trop présent. Après, je sais pas. Évidemment qu'il y a eu les séances de masturbation entre copains.
Tu as fait ça aussi.
Oui, j'ai fait ça aussi.
Mais j'ai l'impression que c'est un vrai rituel entre garçons.
Ouais.
Si je fais un parallèle avec les filles, c'est vrai que... Alors après, évidemment, je ne parle pas au nom de toutes les jeunes filles qui découvrent leur corps. Mais c'est vrai que chez les jeunes filles, c'est souvent assez tabou. On ne dit pas qu'on se touche, c'est un peu gênant, un peu honteux. Et les garçons, je me rappelle aussi dans mon collège, où les garçons organisaient les mercredis après-midi, etc. Vraiment des séances où ils se voyaient et ils se branlaient les uns à côté des autres, devant un film ou pas. Enfin, il y avait, ils étaient très à l'aise avec ça. Et il y avait cette vraie interrogation, mais qu'est-ce qu'ils font ?
Ouais, c'est très étrange parce que, en plus, je suis quelqu'un de très pudique. Donc, j'étais assez mal à l'aise. Et à la fois, il y a cette espèce d'excitation commune,
oui,
évidemment,
de
devant un film le plus souvent. Mais parfois, je me rappelle, j'allais dormir chez des copains, donc sur le matelas en bas du lit de mon copain. Et on parlait avec la lumière éteinte. Et puis, à un moment donné, on se disait, à toutes, quoi. Enfin, voilà. Et chacun faisait sa petite affaire.
Ok. Et c'était quoi, là ? C'était plutôt le rituel et c'était de la performance où il y avait déjà... Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez sibyllin pour quand tu connais pas. Il y avait déjà une recherche de plaisir ou c'est plus mécanique qu'autre chose ?
Ouais, je crois que pour moi, c'était mécanique.
Mm-hmm.
C'était assez mécanique et c'était dans l'attente de, du coup, connaître l'acte sexuel avec une femme.
Un jour.
Parce que du coup, on fantasmait beaucoup ça et c'était juste pour essayer de se rassurer, de se dire que... Nous, on savait comment faire fonctionner notre propre corps et quand ce jour-là arrivera, on sera épanoui, on sera heureux de faire ça, quoi.
Ok. Tu parlais de films. Comment vous vous procuriez des films ? Parce que si t'as 33 ans, c'était pas encore l'avènement de...
Alors en fait,
des tubes, etc.
Ouais, j'avais un copain qui avait Canal+, et qui
fameux.
Du coup...
On a tous voilà. Un copain qui avait Canal+.
Évidemment, je l'avais pas, mais mon pote avait Canal+, et du coup, je sais pas comment il faisait pour enregistrer. Je sais pas...
Magnéto,
il se levait la nuit, sûrement. Ça, j'ai jamais eu les détails
techniques
de ça. Mais n'empêche qu'il y a eu cette fameuse scène des deux lesbiennes dans la paille qui m'a marqué toute ma vie.
Ah oui. deux lesbiennes dans la paille.
Bah oui, parce qu'en fait, je découvrais que deux femmes pouvaient se procurer du plaisir. Mmh. Et donc c'était, comment dire, en même temps que cette découverte de la masturbation, de son propre corps, du fait d'être capable de le faire avec d'autres gens à côté, de voir deux femmes faire l'amour dans cette paille, en plus c'était des femmes sublimes. Ce jour-là, ouais, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois.
Donc les deux lesbiennes dans la paille.
Ouais.
Ok. Ça va, c'était des films plutôt soft.
Ouais. Oui, c'était du porno. Non, ça a jamais été trop trash.
On arrive donc fin de collège. T'arrives au lycée.
Ouais.
Donc tu as eu des petites amies au collège, dans les booms, etc. T'es ouais. allé un petit peu plus loin dans les flirts, un peu, on va dire, poussées.
Ouais, un peu.
Et
j'arrive au lycée, dans un autre lycée, donc mes amis du collège étaient dans un autre lycée, et moi, par rapport au médium que je faisais, enfin à l'option, enfin je sais plus comment on appelait ça mm-hmm. à l'époque, du coup j'ai dû aller dans un autre collège, un autre lycée, et j'ai rencontré d'autres personnes, et ça m'a permis d'être un peu moins introverti, du coup, et d'être pris pour en gros, je pouvais me présenter comme j'étais, et ça allait être ça moi, en fait. Alors que les autres que je suivais depuis la primaire, bon, ben, y a un truc installé. Oui. Donc ça m'a permis d'aller plus facilement vers les femmes. Et en fait, j'ai rencontré une jeune femme qui n'était pas femme encore à l'époque, d'ailleurs.
Mm-hmm.
Enfin, si, peut-être. Et bref, elle était hyper expérimentée.
Ok.
Et
au lycée, donc.
Au lycée, c'était en seconde. C'était juste avant ma grosse relation de lycée. Et en fait, elle m'a chamboulé. Elle m'a, enfin, je... voilà, il fallait très vite passer à l'acte. J'ai eu ma première fellation sans vraiment savoir ce qui m'arrivait, sans l'avoir choisi, mais enfin, c'était pas du viol évidemment, mais j'étais juste bras ballants, bouche ouverte. Qu'est-ce qui se passe, quoi?
Passif.
Voilà.
Elle a tout géré,
et après, elle a voulu qu'on fasse l'amour. Et si mes souvenirs sont bons, j'ai eu une panne parce que c'était trop, too much.
Ouais, beaucoup d'informations.
Ouais. Mais grâce à ça, du coup, j'ai pu aller dans ma relation d'après qui, pour le coup, a duré 2 ans et demi. Une idée du sexe, enfin, comment dire, bah, j'ai eu un peu d'expérience et ça m'a permis d'être plus à l'aise.
Tu penses que c'est ce qui t'a permis aussi de te libérer de quelque chose et de te donner les moyens d'aller draguer cette jeune fille, d'avoir une relation?
Ouais, exactement. Mmh. Je savais un peu plus à quoi m'attendre. Mmh. Mais ça a été vraiment étape par étape. Et donc, je veux pas brûler les étapes dans notre entrevue, mais c'est vrai qu'en me remémorant ça, je me dis que maintenant encore, rien n'est acquis et c'est encore des étapes tout le temps. Je trouve ça fabuleux.
Ah oui, le chemin est chouette.
Ah ouais.
On pense effectivement de temps en temps arriver à un stade et puis il se passe quelque chose dans notre vie, il y a un déclencheur, il y a un chamboulement comme tu dis et effectivement on se redécouvre et ouais, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de mur dans tout ça.
Ouais.
Et la jeune fille donc, qui t'a un peu chamboulé, tu te rappelles quand tu l'as vue nue, tu te rappelles... ces moments-là, ça a dû être très intense, que tu passais des flirts un peu adolescents de collège à une nana qui a tout de suite...
Oui, qui m'a allongé littéralement sur le lit de mes parents, a baissé mon pantalon.
Le lit de tes parents.
Oui, en plus, la symbolique.
Wow.
Ouais. Je ne sais pas pourquoi on a choisi ce lit-là, mais ouais, elle a baissé mon pantalon, mon caleçon, je m'en rappellerai toujours. Elle a mis... en gros, elle a mis une capote... Enfin, elle a commencé à mettre la capote sur mon sexe et après elle l'a déroulé avec sa bouche. Enfin,
maîtrise, une ouais, vraie maîtrise.
Maîtrise. Et moi, je ne savais pas ce que c'était, quoi.
D'accord.
Et c'était assez fou.
Donc, du coup, t'as pas vraiment de relation avec cette jeune fille?
Non, ça se finit très vite parce que je crois que la panne, ça lui a pas plu. Et du coup, ça s'est terminé. Mais de toute manière, elle me plaisait pas vraiment. Et donc, juste derrière, je suis sorti avec une autre fille qui pour le coup était également très expérimentée, mais beaucoup plus en retrait et beaucoup plus dans le respect de
ton temps à toi,
de mon temps à moi, de notre temps à nous, de se donner du temps. Et un jour, on flirtait sur mon lit, chez mes parents, dans ma chambre, et on attaque tout doucement les préliminaires, Et je sais pas comment j'ai eu ce déclic et je lui ai dit ben on pourrait faire l'amour. Et elle m'a dit, elle avait l'air un peu soulagée et à la fois hyper, enfin elle était contente que je lui propose ça. Elle m'a dit ben ouais d'accord ok. Et en fait ça s'est fait hyper de manière hyper magique. Ma première fois elle est super belle.
Ah c'est chouette.
Ouais.
Parce que souvent les souvenirs de première fois sont un peu c'est pas toujours les meilleurs souvenirs et là c'est une belle première fois.
Ouais en fait j'étais maladroit c'était vraiment pas parfait et tout ça mais en fait elle m'a accompagné, elle m'a montré et puis elle savait, elle avait déjà fait l'amour avec plusieurs garçons et donc j'ai très bien vécu.
Ah, c'est chouette. Ouais. C'est un beau souvenir.
Ouais.
Tu rentres du coup dans ta vie sexuelle avec de la confiance.
Ouais.
C'est chouette.
Et avec une relation longue.
En plus.
Donc du coup, on peut essayer plusieurs choses aussi avec le temps et avoir des pratiques sexuelles un peu différentes, bien qu'aujourd'hui je me rends compte que c'était pas si fou que ça.
Oui, mais... quand tu y es, t'as l'impression que c'est waouh.
Ouais.
Mais en fait,
c'est ça.
20 ans après, tu te dis... Là. C'était mignon.
Ouais.
Et donc 2 ans et demi avec, c'est ta première amoureuse.
Ouais.
Ça se termine après le bac, si je calcule bien.
Exactement, le jour du bac, le jour des résultats.
Ah oui. Oh, difficile.
Très dur.
Espèce d'ascenseur émotionnel.
Bon, après moi j'ai eu mon bac et pas elle, donc.
Ah c'est surtout dans ce sens-là.
Ouais.
Ah oui. Donc ok, ça se termine. Ceci explique peut-être cela.
Ouais.
Tu vas faire tes études.
Je vais faire mes études, ouais.
Donc tu rentres dans la vie étudiante célibataire.
Ouais. Attends, parce que les souvenirs m'échappent un peu. Mais oui, effectivement. Non, c'est ça. Je commence la fac célibataire. Et pas en recherche de quoi que ce soit, je crois.
T'as mal vécu cette rupture ?
Non, pas du tout. Au contraire, j'étais soulagé. En fait, c'était... C'est moi qui l'ai voulu et en fait, au-delà de toutes ces belles choses que je raconte, c'était une personne très possessive et c'était juste pas possible. Voilà. Mais voilà, et après je trouve que ma vie sexuelle c'était un peu éteint.
Mm-hmm.
Pendant quelques années, j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui je suis resté 3 ans. J'ai été très très amoureux de cette fille, mais avec du recul, je me rends compte que j'ai rien fait pour faire avancer les choses sexuellement et elle non plus. Après j'étais son premier, donc du coup ça s'est inversé. Enfin je veux dire
oui.
Voilà, c'est
moi qui avait l'expérience.
Voilà. Et j'ai pas été très très aventurier sexuellement.
C'était une sexualité plutôt classique et
ouais.
Simple. Enfin même si c'est difficile de mettre des qualificatifs sur la sexualité parce que il y a autant de sexualité que de gens et puis en plus comme on le disait. On avance, enfin, ce qui te paraissait un peu aventurier à l'époque, aujourd'hui peut te paraître somme toute très banal, enfin, c'est compliqué, mais c'était du coup une sexualité plutôt tiède. Enfin,
Ouais, en fait,
je m'avance. Hein, mais...
C'était simple. C'était, en fait, c'était vachement plus. Cette relation était plus basée sur l'amour que sur le sexe. Enfin, les deux ne sont pas évidemment contraires, mais. Mais là, pour le coup, je l'ai vécu comme ça. Donc, on était plus dans un petit truc fleur bleue où, bon, bah, on fait l'amour parce que ça fait du bien, mais on va pas forcément aller chercher
l'aventure,
repousser des limites, essayer de chercher à exister concrètement de manière plus compliquée que ça sous la couette, quoi.
Et toi, à ce moment-là, c'est quoi ton rapport à ton corps, aux femmes donc là, t'es étudiant, t'es majeur, tu commences à voler tes propres ailes. T'es comment, toi, par rapport à toi en tant que jeune homme ?
À ce moment-là, je suis assez complexé encore. À ce moment-là, je n'existe pas vraiment. Enfin, c'est assez bizarre à dire, mais j'ai l'impression d'avoir vécu toute cette période un peu... comme si je flottais au-dessus de ma vie. Bon, voilà, je me posais vraiment pas de questions. Je me laissais vraiment aller. Donc, non, c'est bizarre. Hein. Je pense que c'est l'un des plus grands amours de ma vie. Et puis en fait, je me rends compte que j'y étais pas trop, quoi. J'étais pas présent.
Tu penses que tu l'as cristallisé ou c'est Parce que c'est vrai que les premières amours, elles ont toujours quelque chose de très, très intense, parce qu'on découvre beaucoup de choses, le sentiment, la jalousie, la peur de perdre l'autre, on se donne, enfin voilà, et puis on grandit avec. Donc c'est vrai que c'est toujours des personnes qui comptent beaucoup. Mais avec le recul, tu penses que tu aurais pu mieux faire ? Tu aurais pu faire avancer cette relation ? Vous auriez pu être ensemble plus longtemps ou...
Je pense, ouais. Je pense que j'aurais pu être un peu moins chiant. Et un peu moins sur mes acquis.
Mmh.
Et ça aurait pu avancer. Ça aurait pu avancer. Après, enfin, quand elle m'a quitté, pour moi, pour le coup, là, j'étais très, très malheureux. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre. J'ai mis 3 ans à m'en remettre.
Mmh. Ah,
et,
oui,
et quelque part, pendant ces 3 ans, justement, ma vie sexuelle s'est complètement ouverte. Et là... Alors, en fait, j'avais ce truc de... donc j'ai eu beaucoup de conquêtes, beaucoup de nanas, j'arrive à faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de moi.
Donc pendant les 3 ans de, voilà. De spleen et de tristesse,
ouais.
T'as été le
don
fameux
Juan.
Mec qu'on voulait consoler parce qu'il était malheureux.
Ouais, c'est
ah,
un
ouais.
Peu ça.
Ouais, ouais.
J'en parlais pas, enfin, je parlais pas de ma rupture forcément. Mm-hmm. Je pense que ça se ressentait peut-être ou ça se voyait, mais non. En fait, ce qu'il y avait, c'est ce qui était bizarre, c'est qu'à chaque fois que j'étais avec une fille. Je me disais, en fait, c'est comme si j'essayais de faire ce que je n'avais pas fait pendant ces 3 années
d'accord.
D'avant.
Tu rattrapais en fait cette sexualité un peu en demi-teinte.
Ouais, exactement.
Et t'allais un peu plus loin avec ces filles-là.
Ouais.
Donc ça, c'était surtout des filles que tu rencontrais à la fac.
Non, parce que là, j'étais plus à la fac. J'ai arrêté la fac très vite pour travailler à côté, avoir un petit mi-temps. Et après, c'est là que j'ai monté mon premier vrai groupe de musique un peu important. Et
parce que tu es musicien.
Parce que je suis musicien, tout à fait. Et donc en fait, j'étais vraiment dans une vie de bohème.
T'étais à Paris ?
Non, j'étais encore
dans ta région.
Dans ma région, ouais. Et donc là, j'ai vraiment vécu la bohème. Je faisais beaucoup de concerts,
ouais.
Beaucoup d'after. Je sortais beaucoup. J'avais plein d'amis. La boutique dans laquelle je travaillais, c'était un espèce de gros réseau de potes avec que des fringues à la mode.
Oui, un peu branché, donc
branchouille,
que
voilà.
Des jeunes, etc.
Et du coup, je rencontrais beaucoup, beaucoup de filles. Et effectivement, le côté musicien un peu triste, un peu... on ne sait pas trop, mais il y avait un côté mystérieux que je pense qu'il y a plu.
Okay, ouais, qu'il y a beaucoup
et
plu
j'en
filles.
Ai joué à fond.
C'est bien de l'avouer.
Ouais, bah ouais, mais parce qu'en fait, dans le fond, je crois que j'étais comme ça et que j'aurais pas pu être autrement. Ça aurait été malhonnête, en fait, envers ces jeunes filles. J'ai toujours été très honnête. Seulement, voilà, j'avais un besoin de m'éclater qui était absolument prenant et tenace en moi. Et donc, j'ai enchaîné les conquêtes.
Et là, donc, tu couchais avec ces filles et il n'y avait pas de lendemain ?
Il y avait toujours un lendemain. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans ces rencontres, c'est que du coup, comme je l'ai rencontré après un concert, dans un after, au fin fond d'un bar, mais en fait, j'essayais toujours d'y mettre les formes, que ce soit pas... le vieux mec bourré qui vient de chanter du rock pendant une heure, qui vient parler à la plus belle fille de la salle, non. C'était toujours romancé tout ça. Et donc évidemment qu'il y avait un lendemain et même un lendemain de promenade. J'ai toujours été là-dedans, même si c'était pas génial, même si c'était pas la femme de ma vie. En fait, j'ai toujours aimé... en fait, quelque part... la partie sexuelle était finalement pas si importante que ça. Voilà.
T'aimes ce qu'il y a autour ?
Ouais.
T'aimes la séduction ?
Ouais, énormément.
Et t'aimes ce qui se passe après, la connexion que vous avez pu avoir physique,
ouais.
D'étirer un peu sur le lendemain ?
Ouais, la complicité, en fait. Surtout cette espèce de complicité très rapide, très instinctive avec une personne que tu ne connais pas. Et j'adore ça, en fait. Parfois, j'ai eu l'impression de... d'être qu'on se connaissait depuis toujours, enfin qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait de très fort.
Et ça, c'était après avoir couché avec que l'intimité était consommée.
Ouais, c'était après ça. Ouais. Avant, c'est plus la séduction et.
Oui, il y a encore quelques.
Ouais.
C'est difficile de faire tomber certaines barrières, etc.
Ouais.
Et tu as eu beaucoup, beaucoup de conquêtes à ce moment-là.
J'en ai eu pas mal, ouais. J'en ai eu pas mal qui ont compté. En fait. Mmh. Et en fait, c'est ça, je me rends compte qu'elles ont toutes compté. En fait, je crois que je suis tombé amoureux de chacune de ces filles, mais pas amoureux, l'amour fou entier, mais il y avait des parties de moi qui tombaient amoureux
de chacune de ces filles.
De chacune de ces filles, ouais.
T'es jolie.
Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, le fait de rencontrer plusieurs jeunes filles m'a permis de rencontrer plusieurs manières aussi de faire l'amour, de préliminaires, pas préliminaires, les préférences des unes des autres. Et en fait, ça m'a vachement construit, je trouve.
Sur ta sexualité.
Ouais.
Et c'est cette période-là qui a fait de toi un meilleur amant, un bon amant,
ouais.
Tu penses?
Ouais, c'est bien dit ça.
Je sais pas. Hein.
Ouais, ouais, si, ça ressemblerait plutôt à ça. Ouais.
Donc, à chacune a été un chapitre qui t'a permis d'évoluer sur certaines choses. Tu as un style de fille défini?
Alors, c'est très intéressant. J'avais un style de fille défini. Mm-hmm. Et depuis un an et demi, ma dernière grosse rupture, plus du tout.
D'accord.
Voilà. Je prends tout ce qui passe. Non, je déconne.
C'était quoi ton style de fille?
Non, je plaisante. Mon style de fille, plutôt intrépide, plutôt...
Intrépide?
Ouais.
C'est un mot qu'on entend peu, j'aime bien.
Ouais.
Intrépide.
Ouais, tu vois, pas froid aux yeux et à la fois pas complètement folle, tu vois, mais un côté... dans la découverte de l'absolu et un peu intellectuel, on va dire. J'avais un peu ce truc-là. On va dire Amélie Poulain, si tu veux.
D'accord.
Tu vois, la fille un peu réfléchie, mais qui fait des choses un peu folles.
C'est une bonne image.
Ouais.
On voit bien, la fille intrépide.
Voilà.
Ok, donc c'est le début de ta vie d'adulte. Tu as rencontré plein de jeunes filles qui t'ont permis de nourrir ta sexualité, d'avancer sur les doux, les dons, etc. Tu commences la musique professionnellement. Oui. T'as une histoire d'amour qui arrive à ce moment-là ou...
Oui, en fait, je pars de ma région pour m'installer à Paris. Et,
souvent, pardon, mais souvent, l'arrivée à Paris... Il se passe des choses.
Oui, bah c'est vrai. C'est une ville merveilleuse pour ça. Je continue pendant une longue période, pendant une année environ, à avoir des relations avec plusieurs filles. Pour le coup, jamais en même temps, hein, toujours.
Smart.
Ouais, les unes après les autres. Mais avec. Des filles d'avant qui reviennent dans ma vie. Voilà, il y a des allers-retours comme ça, sans mauvais jeu de mots. Et je rencontre quelqu'un, ouais.
D'accord, et cette histoire va durer longtemps ?
Cette histoire va durer 5 ans.
Donc une vraie belle histoire.
Une vraie belle histoire. Et pour le coup, je rencontre quelqu'un qui met la touche finale à mon épanouissement sexuel et sentimental, on va dire, parce que c'est l'amour fou. On partage absolument tout va très vite. Et
vous avez la même passion, la musique?
Ouais, c'est une musicienne aussi.
Oui, donc forcément, ça crée une. Je te pose la question parce que c'est vrai que quand on a ces métiers-là qui demandent aussi beaucoup d'implications émotionnelles et spirituelles. Donc, c'est vrai que quand tu partages la même passion, du coup, il y a aussi cette histoire qui se crée. Et après, ça, c'est peut-être le fantasme des gens qui ne sont pas dans la musique, mais on imagine aussi que ça peut donner une excitation certaine, ça peut jouer aussi sur votre intimité. Enfin, ça doit être assez intense de partager sa vie avec quelqu'un qui a la même passion que soi.
Bah, ça l'est parce qu'il y a ce jeu d'admiration qu'on a en commun. Quand on va se voir mutuellement en concert ou quand on parle de ce qui nous arrive dans notre carrière, enfin, dans notre vie d'artiste. Il y a une admiration, c'est très intense. Et à la fois, du coup, au bout de quelques temps, il se passe tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que là, j'ai une perte de désir totale, plus de libido.
Zéro.
Tu me parlais de masturbation tout à l'heure, je pense que je n'ai pas pratiqué ça pendant un an.
Comment ça se fait? Tu l'expliques aujourd'hui, la déconnexion de ta sexualité?
Je pense que justement, être trop dans les mêmes travers, en fait, là où ça nous a porté sur les deux, trois premières années de notre relation, ça s'est retourné contre nous et on s'est mis à s'étouffer. En fait, on s'est vraiment étouffé. En plus, on a vécu ensemble. Le quotidien, en fait, devenait pesant. On avait besoin d'espace. Et
surtout si vous travaillez.
Voilà, c'est-à-dire que tous les soirs, c'était les mêmes conversations sur les mêmes choses, les mêmes sujets.
Vous aviez des projets musicaux différents ?
Ouais.
Vous travailliez ensemble ?
Non, on avait des projets musicaux différents.
Ok.
Mais avec les mêmes problématiques de la pochette de disque, oui. le clip, le mastering, enfin tous ces trucs-là, on les vivait à 100% déjà pour nous. Et en plus, il fallait les vivre à 100%
pour l'autre. Ouais.
Et au bout d'un moment, en fait, on s'est complètement... c'est comme des aimants qui s'annulent, quoi. On s'est retourné l'un contre l'autre. Enfin, je sais pas.
Vous en avez parlé de tout ça ? Parce que si vous avez... si toi, t'as eu une perte de désir, ça a dû, dans votre intimité, ça a dû se faire ressentir. Est-ce que vous en avez parlé ? Vous avez réussi à...
On en a parlé. On en a parlé assez tard. Mais on en a parlé et en fait on se couchait le soir, on était côte à côte et on se regardait, on se disait mais on n'a pas envie, j'ai pas envie toi, bah non moi non plus.
Bon, t'avais pas envie d'elle ou t'avais pas envie tout court de sexe ?
Alors j'avais pas envie d'elle, je regardais pas les autres filles, non en fait j'avais plus envie de sexe.
Du tout ?
Non.
Et ça t'a pas effrayé, tu t'es pas posé plus de questions que ça ?
En fait, j'étais tellement... à cette époque-là, j'étais en tournée, sur une énorme tournée.
Pardon, je te coupais, mais t'as le fantasme de la tournée où t'as toutes les groupies, les nanas qui viennent te voir à la fin des concerts.
Mais ouais, mais
vrai
pas du
ou
tout.
Pas alors ?
Alors, complètement faux.
Enfin,
complètement vrai pour certaines personnes, peut-être. Mais alors moi, pour le coup, tous ces gens qui venaient au concert, en fait, tu peux pas, en fait, pour le coup, il n'y a aucun jeu de séduction, mis à part ta prestation scénique, mais ça marche que dans un sens.
Mmh.
Et du coup, j'étais hyper mal à l'aise. Il y a eu des soirs où on a pu finir après le concert dans un bar avec des filles qui nous reconnaissaient. Mais c'est pas un échange, c'est pas un partage. Ça va que dans un sens.
Oui, c'est elle qui t'a vu, toi, tu ne l'as pas vu.
Voilà. Et ça, du coup, ça faussait tout. Donc, pendant toutes ces périodes de tournée... aucune conquête.
Tu n'as jamais profité de cette facilité ?
Si, énormément, mais en dehors de cette période-là.
D'accord.
Voilà.
Oui, quand effectivement tu n'étais pas en tournée et que tu expliquais que tu étais musicien ou quand tu faisais des concerts plus...
C'était des concerts, c'était moins intense. Mais quand j'ai été en tournée vraiment à proprement parler, tout est faussé en fait.
Bah, c'est déroutant j'imagine parce que tu dors jamais au même endroit, tu te lèves dans une autre ville... Enfin, c'est assez...
Ça, à la limite, ça peut être plutôt rassurant de se dire, ben voilà, je couche avec une fille, puis le lendemain, elle ne me reverra pas, au moins j'en suis
sûr.
Mais non, en fait, ce qui est faussé, c'est que tu montes sur scène, tu es dans la lumière, limite, tu ne vois pas les gens qui sont devant toi, eux, ils ne voient que toi, et en fait, ça casse le charme.
Ouais, ça doit être perturbant.
Ouais.
Avec cette jeune femme avec qui tu as partagé ta vie 5 ans, donc il y a cette période effectivement qui doit être très perturbante pour un couple. Surtout, est-ce qu'il y avait encore de l'amour dans votre histoire ?
Il y avait énormément d'amour.
Vous étiez encore amoureux l'un de l'autre ou c'était juste l'amour qui vous retenait ?
Bah, je crois qu'on était, très amoureux et petit à petit ça s'est transformé en affection. Et en fait ça s'est transformé un peu en amour fraternel,
okay.
J'ai l'impression.
D'accord, donc au bout de 5 ans, vous décidez de mettre fin à cette relation.
Ouais.
Il n'y a pas eu, parfois ça peut arriver, tu sais, un espèce de regain quand tu vois que la fin est proche. Tu te dis que tu essaies une dernière fois et puis ça peut peut-être faire partir quelque chose.
Alors pas du tout.
Alors pas du tout.
Pas du tout.
Zéro.
Désolé, mais
okay. non, pas du tout.
En fait, ça a été très étrange parce que encore une fois, j'ai vécu une rupture qui a été un soulagement pour moi.
Tu vas vraiment jusqu'au bout du bout du bout. Il y a des gens parfois, tu sais, qui partent. Quand c'est un peu le high de l'histoire, parce que justement, ils ne veulent pas voir la descente,
ouais.
Parce que ça leur fait peur. Et du coup, ça crée une vraie incompréhension de l'autre partie, parce que pourquoi tu pars, on est plutôt bien. Oui, mais je n'ai pas envie que, tu vois. Et toi, c'est intéressant que tu ailles jusqu'au bout.
Ouais.
Vraiment, tu fais, pardon pour l'image, mais tu racles jusqu'au fond pour que la rupture soit un point final affirmée.
Ouais. Alors, je suis content que tu le vois comme ça parce que j'ai tendance à me traiter de lâche aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi de ne pas avoir eu le cran de la quitter au bon moment et d'avoir laissé les choses un peu végéter. Et au final, j'en suis pas mécontent parce que tu l'expliques très bien. C'est ce qui a permis aussi de manière commune de se dire bah on va arrêter parce que on est allé au bout de notre histoire amoureuse, sentimentale, mais on va conserver le lien qui nous unit et du coup aujourd'hui on se voit 3 fois par semaine.
Vous êtes très amis.
On est très amis.
Et il y a jamais et l'histoire amoureuse a.
On dort ensemble de temps en temps et il ne se passe rien.
Comme avant, finalement.
Oui. Oui, voilà.
Autant pour moi, c'était une petite blague. Ok, donc cette histoire de 5 ans, donc il y a énormément compté.
Voilà.
Qui s'est terminée du coup il y a combien de temps ?
Qui s'est terminée il y a 1 an et demi là.
Et aujourd'hui, donc 1 an et demi, on y est maintenant. Tu vois, on fait une transition tout en parfaitement. On est maintenant, donc ça se passe comment ta sexualité ?
En fait, je suis heureux comme dans ces 3 ans où j'avais beaucoup de conquêtes.
D'accord, tu te réveilles de... Parce que, si je comprends bien, donc t'as pas eu de sexualité avec cette jeune femme pendant 1 an.
Ouais.
Donc du coup, quand vous décidez, et j'imagine que ça a dû être douloureux, ça a dû être épuisant émotionnellement, et le quotidien, parce que t'as la personne que tu as vue tous les jours...
Qui est plus là.
Qui est plus là, ouais. Tu la cherches, enfin, bon, c'est toujours même ouais. La mémoire du corps, la mémoire de plein de choses.
Tout à fait.
Donc le temps de se remettre de ça, c'est un peu une convalescence. Une fois que tu termines ça, est-ce qu'il y a eu un regain de sexualité ? Est-ce que ta libido est revenue ? Est-ce que toi, avec ton corps, vous avez reconnecté ?
En fait, si tu veux, c'est assez étrange parce que... Donc il y a eu cette séparation, je ne me rappelle plus du jour exact, mais on va dire un mercredi. Et le samedi soir, je couchais avec une autre fille, en fait.
Ah oui ?
Oui. En fait, quand je te parlais de soulagement, c'est pas qu'elle sorte de ma vie, bien au contraire, puisqu'elle en fait toujours partie. Mais c'est qu'enfin, en fait, j'allais pouvoir peut-être revenir dans ma sexualité qui s'était complètement endormie.
Tu l'as jamais trompée ? Tu n'as jamais eu envie de la
non,
tromper ?
Non, je ne l'ai jamais trompée parce que pour le coup, déjà, je n'en avais pas vraiment envie.
Oui.
Et en fait, je ne me suis jamais posé la question. Et ça, pour le coup, c'est des choses que j'aime pas trop. J'ai déjà trompé quelqu'un. On peut pas tromper. Pardon. J'ai déjà trompé quelqu'un, mais je l'ai tellement mal vécu que. Enfin, là, la question s'est même pas posée, en fait.
J'ai une des personnes avec qui j'ai parlé qui me disait une phrase que je trouvais superbe qui était je ne l'ai jamais trompé parce que la tromper, ça aurait été me tromper. Et je trouve que c'est très juste.
C'est très juste.
Parce que quand tu es...
C'est très beau.
Ouais, c'est très beau, c'est très juste. Et c'est vrai que tromper quelqu'un... Après, c'est qu'est-ce que tromper, tu vois ? Est-ce que une excitation, un coup d'un soir, une envie, et quand tu as 10, 15 ans de vie commune et que c'est un peu compliqué à la maison, etc. Voilà, il y a cette sortie-là. Est-ce que c'est... Tu vois, est-ce que c'est tromper ? Enfin, c'est tromper, certes, mais est-ce que... voilà, tu dois mettre le coup près et c'est terminé. Après, ça, je pense que c'est tout à chacun et ça regarde chaque couple. Mais je pense que quand tu trompes, même si effectivement la personne que tu as trompée le vit très mal, enfin, en tout cas, encore une fois, ça dépend des gens, on ne va pas faire généralité. Il y a des gens que ça ne dérange pas, il y a des couples libres, enfin, mm-hmm. Il y a tous les schémas possibles. Je pense qu'effectivement, tromper quelqu'un, on se perd un peu quelque part. On s'abîme un petit peu quelque part parce que du coup, dans notre société à nous, en tout cas, tromper, c'est mal.
Ouais. Bah oui, c'est mal.
Et tu l'as dit, j'aime pas.
Ça peut faire du mal, en fait.
C'est ça.
On peut se faire du mal avec ça, mais on s'en remet. Enfin, je vois la fois où j'ai trompé quelqu'un, je m'en suis remis sans aucun problème. Mais moi, j'ai été trompé aussi, et ça fait très très mal, ouais.
C'est l'ego.
Bah ouais, c'est l'ego. D'un coup, cette personne, elle ne t'appartient plus, même si je déteste ce terme dans un couple, mais. Il y a un côté comme ça et je pense qu'il faut beaucoup de maturité, d'expérience pour accepter ça, repartir ou en tout cas ou peut-être finir par se dire peut-être qu'on peut être un couple libre.
T'y crois toi ? Est-ce que tu crois à la fidélité ?
J'ai du mal à y croire dans la mesure où j'ai vu mon père tromper ma mère et j'ai vu ma mère en pleurs et mon père venir m'expliquer que...
La main sur la cuisse.
Alors non, pas cette fois-là, parce que je voulais pas qu'il me touche. Je lui en voulais énormément. Et mais m'expliquer, tu sais, mon fils, on peut aimer deux femmes dans la vie. On peut, c'est compliqué, c'est très difficile, mais on peut aimer deux femmes en même temps. Ça arrive. Mmh. Et il faut savoir gérer avec ça. Et donc, le jour où il m'a dit ça, j'étais en... Donc, j'étais en plein dans ma relation de lycée, fou amoureux. Donc, pour moi, c'était inconcevable. Et, mmh. Et j'avais envie de lui mettre ma main dans la figure. Puis, en plus, on parlait de ma mère. Aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire. Et oui, en fait, je comprends.
Okay.
Je comprends qu'on puisse aimer deux femmes en même temps. Ouais.
Ça ne t'est jamais arrivé?
Bah, dans la mesure où je les aime toutes...
un grand cœur.
Non,
elles sont toutes dedans.
Non, ça m'est un peu arrivé.
C'était un peu arrivé.
Ça m'est un peu arrivé, mais c'était un peu secret. Je ne l'ai jamais trop dit. J'ai un peu ravalé ça, quoi.
Ok.
Parce que je suis quelqu'un d'assez raisonnable. Et là, pour le coup, pour moi, m'aventurer là-dedans, c'est des complications énormes dans toute ma vie. Donc j'ai préféré... voilà.
Taire la chose.
Ouais, ouais.
Donc on est là, on parle de ta rupture date d'il y a un an et demi, donc c'est le présent, enfin, quelque part. Donc aujourd'hui, tu revis un peu cette période-là où effectivement tu as pas mal de conquêtes, tu vois plusieurs jeunes femmes, tu as ces histoires très intenses mais très éphémères.
Oui.
Tu as reconnecté avec ton corps.
Complètement.
Et donc ça, c'était ce jeune homme il y a maintenant 10 ans et quelques.
Ouais.
Et aujourd'hui, avec les 10 ans de maturité, ça donne quoi?
Bah, en fait, j'ai perdu tous les complexes que j'avais un peu.
Parce que tu n'es plus du tout gros, bien au contraire.
Non,
tu es
mais,
très mince.
Mais même, c'est même pas forcément que des complexes physiques, mais des espèces de schémas mentaux où tu fais trop attention. Enfin, en fait, j'ai réussi à gagner le lâcher prise. Qui
n'a pas de prix finalement.
Ouais, qui fait beaucoup de bien. Et donc, tu peux t'adapter à la personne, mais tu peux aussi emmener la personne dans ce que toi, tu veux. Et en fait, j'ai réussi à créer l'échange, le vrai partage qu'il peut y avoir autour d'un acte sexuel, d'un acte de séduction, enfin, voilà, de créer une vraie histoire, même si elle va durer deux jours,
mm-hmm.
qui est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de ça, et de manière totalement assumée, sans complexe.
Est-ce que tu peux me raconter, par exemple, une fois inoubliable?
Alors, une fois inoubliable, c'est pas pour les mêmes raisons. Je me suis retrouvé dans une boîte de nuit à Paris, en mode un peu fin de soirée. J'étais un peu éméché, je commençais à être pas très beau à voir. Et je m'embêtais, mes amis s'amusaient beaucoup, mais alors moi, je savais plus ce que je faisais là. Et une jeune fille arrive juste à côté de moi, en sueur, elle venait de danser... Et on se regarde et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Je me fais chier. »« Viens, on rentre. »« Bah oui. » Et en fait, je suis rentré chez elle directement.
Okay.
Je ne connaissais pas son prénom. Je crois que dans le taxi, elle a dû me le dire. On a dû échanger nos prénoms, mais je ne suis même pas sûr. D'où la suite. Donc du coup, nuit d'amour éméchée, donc pas top. On a hâte de se réveiller le lendemain et de remettre ça, on va dire. Et justement, je me réveille le lendemain matin, donc dans un appartement qui n'était pas le mien. Je la vois à côté, impossible de me rappeler de son prénom. Impossible, impossible, impossible. Et donc, elle se réveille. Et là, elle me dit « Ça va Mathieu, t'as bien dormi ?» Donc elle se souvient du mien. Et j'étais mal à l'aise, mal à l'aise, mal à l'aise. Oui, bien sûr, ça va, super. Où sont tes toilettes, s'il te plaît? Alors, tu vas au fond du couloir à droite, ok. Et donc là, je suis sorti. Je suis allé dans le salon et j'ai été obligé de fouiller dans son sac pour prendre sa carte bleue.
On dirait un film.
Et regarder son nom.
Et donc, c'est bon, t'as pu trouver. Et imagine, donc... c'était la carte bleue de sa mère. Alors, Françoise. Très gênant.
Et donc voilà, ça c'est une anecdote que j'aime bien parce que c'est pour moi c'était vraiment le il y a pas eu si tu veux une histoire de séduction énorme, mais il y a eu un truc
immédiat.
Immédiat qui a marché tout de suite et en fait tout marchait très bien, très vite.
Vous avez remis ça le lendemain?
On a remis ça le lendemain, on est resté 3 semaines ensemble.
Ah oui.
Ouais.
C'était chouette.
Non. Non, parce que son chien nous regardait faire l'amour et ça me perturbait beaucoup.
Ah oui, ça peut. Enfin, c'est compréhensible si le chien regardait. Est-ce que tu as une fois à oublier du coup. Là, tu m'as parlé d'un truc un peu voilà, rigolo, mais est-ce que t'as...
Alors, j'ai une fois oublié, parce que en fait, je me suis senti humilié.
Ah.
Donc ça, c'était pendant les 3 ans, donc c'est pas maintenant.
Mmh.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais à une fête. Donc, je viens d'arriver à Paris, en mode, je rencontre plein de gens différents. Donc, je vais à une fête d'une connaissance, une fille connaissance qui m'a invité. J'y vais. Et là, je rencontre une jeune fille que je trouve magnifique. Et cette petite voix dans ma tête qui me dit, mais laisse tomber, en fait, elle est trop belle pour toi.
Ah.
Et cette petite voix qui dit, écoute, tu viens d'arriver à Paris.
Sur un malentendu, ça peut marcher.
Ouais, puis t'y vas, quoi. C'était là pour ça. Et donc je la drague à fond et en fait ça marche, ça réagit plutôt très bien. Et ce que je fais, c'est que, enfin, du coup, elle me ramène chez elle et on fait l'amour et je suis ivre mort. C'est nul. Et même moi, je m'en rends compte et je crois même que je m'excuse pendant que, enfin, tu vois, le truc horrible qui m'échappe complètement. On s'endort et le lendemain matin, je me réveille et je me dis, bon, cette fille, elle est chouette. Je veux pas perdre ça, donc je vais essayer d'assurer. Et en fait, je me rends compte en te parlant que c'est pas la meilleure histoire à oublier, en fait.
Alors, termine celle-là.
Non, mais... Et en fait, donc je me réveille, elle se réveille un peu, elle voit que je me réveille. Et du coup, tout gentil, je dis, ça va on se prend un café, on se réveille doucement, machin. Et elle me dit, non, en fait, là, je t'explique, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Et je fais, quoi? Mais, je comprends pas. Moi, je sortais de 2 ans de l'inverse, en fait. Je disais aux filles, on se prend un café, on se commande à manger. Et là, la dégringolade, quoi.
Elle t'a mis dehors.
Elle m'a mis dehors. J'étais dégoûté, quoi. Ça m'a vraiment, je me suis senti très mal. Voilà. J'ai envie de pleurer.
C'est tellement sentimental.
Non, mais oui, mais c'est important, non, je trouve. Oui.
Non, mais c'est vrai que t'es. Depuis le départ, tu. Ça fait quoi? Ça fait un peu moins d'une heure qu'on parle. Et ce que j'apprécie beaucoup, enfin, encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, mais tu n'as pas dit une fois le mot baise, le mot cul. À chaque fois, tu parles de faire l'amour, tu parles de moments, tu parles de... C'est très sentimental, même dans tes histoires qui ont eu 48 heures de vie.
Mmh.
C'est très romantique.
C'est très romantique, ouais.
C'est quoi l'autre fois oubliée?
Oui, l'autre fois oubliée, c'était il n'y a pas longtemps. Une fille sublime, pareil, que je vois à un concert, elle est musicienne. Et pareil, j'ai toujours cette petite voix-là qui est un peu chiante. Qui me dit non mais elle est trop bien pour toi, donc évidemment je ne fais rien le soir même parce que je suis terrorisé à l'idée d'aller lui parler. Il se trouve que grâce aux réseaux sociaux on se retrouve, elle vient me parler et elle me propose de venir admirer la vue de chez elle, de son balcon, le coucher de soleil, tout ça. Donc j'y vais. En fait, elle avait clairement envie de me baiser, voilà. Ça y est, je l'ai dit.
Tu vas tout casser.
Mais là, okay. Pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est elle.
C'était elle, ok.
Non, mais voilà, et en fait, ça part très vite en live. Finalement, je sais pas trop si j'en ai envie. En fait, mm-hmm. Je m'arrive à me dire ça, parce que c'est pas trop mes codes. Il y a pas énormément de jeux de séduction. Je sens qu'on boit un verre, deux verres. En fait, c'est juste...
juste pour ça.
Ouais, la mise en bouche du plat de résistance. Enfin, je me sens vraiment mal à l'aise. Je lui dis que je m'en vais. Et à ce moment-là, elle me retient et on y va. Et là, j'ai un éclair de désir un peu brûlant, un peu intense, pour le coup pas romantique. J'ai des visions assez salaces même dans la tête. Et je me dis, mais vas-y, c'est tellement pas comme d'habitude, éclate-toi, quoi. Et j'y vais. Et la fille ne réagit pas du tout de cette manière-là. C'est-à-dire qu'elle elle ne bouge pas, elle a les yeux grands ouverts.
Oula.
Et elle me regarde et elle attend qu'il se passe quelque chose, alors que moi je suis en pleine action, donc normalement, je sais pas, tu y mets un peu du tien, on fait ça à deux. Lors qu'en fait j'ai commencé à rentrer dans ce truc-là, j'avais l'impression qu'elle me demandait d'être un peu comme ça.
Rentrer dans ce truc-là, c'est une attitude.
Rentrer dans ce rôle un peu.
Ouais. C'est juste pour qu'on n'est pas parti, d'accord.
Non.
Elle a oui.
Plus rien.
C'est perturbant pour toi, parce que les codes envoyés sont, enfin les signaux sont un peu déroutants.
Oui, et puis je sors de ma zone de confort, donc je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose en face, en répondant. Rien du tout. Bon, tant bien que mal, j'arrive à finir mon affaire. Et puis je m'allonge sur le côté, elle ne bouge pas vraiment, elle est morte. Donc je déconne. et là, elle me dit bon, ben 1-0. Je lui dis comment ça, 1-0? Elle me dit ben 1 pour toi, 0 pour moi, parce que toi t'as joui et pas moi. Et là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est-à-dire que évidemment que j'ai joui, je suis un homme, c'est assez primaire. Bon, voilà, au bout d'un moment, on jouit.
Il y a un grand débat.
Oui, il y a un grand débat.
Éjaculer n'est pas forcément jouir.
Ah enfin, oui, tu vois, alors je parle d'éjaculer, ouais.
D'accord, donc il y a des garçons qui éjaculent sans jouir et il y a des garçons qui peuvent jouir avec une éjaculation. Alors certes, moindre, mais qui n'est pas, tu vois, ça peut être un peu différent.
Ça, je ne savais pas trop. Ça, j'étais pas au courant.
Pas mal d'échanges que j'ai eus jusqu'à maintenant. Il y a des garçons qui arrivent à avoir des orgasmes prostatiques. Donc après, je pense que... Je peux comprendre que ce soit assez déroutant, vexant et très réducteur de dire 1-0.
Oui, surtout après tout ce qu'elle a mis en œuvre. C'est elle qui voulait que je reste. Donc en fait, c'est hyper bizarre. Il est tard. Je me dis, bon, je vais dormir chez elle. Et elle me dit, j'espère que tu seras plus en forme demain, ou un truc comme ça, donc horrible. Et le lendemain matin, un peu revanchard, j'y retourne, et je me dis,
allez.
là, c'est de la performance, là il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien, là il faut que je reparte, c'est un truc de mec un peu bizarre, je suis assez peu comme ça, mais là ça m'a tellement énervé, et 2-0, et elle me sort le 2-0. Et là, je suis parti et
T'as pleuré.
Ah non, mais je lui ai dit, ah non, mais en fait, non, même pas, quoi. Je lui en voulais d'être aussi bête. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas comme ça, quoi.
Je
suis peut-être un peu trop fleur bleue, mais à un moment donné, enfin bon, bref. Donc voilà, elle aura jamais son égalité, quoi. Son point partout.
Non. Ok. C'est quoi ton rapport au corps de la femme, justement ?
Moi, je suis absolument fasciné par le corps d'une femme. Un corps de femme me fascine. J'adore découvrir chaque nouveau corps. J'adore la sensation de toucher est très importante pour moi.
T'as eu beaucoup de corps féminins différents dans...
Non, alors pas beaucoup, parce que tout à l'heure tu me parlais d'idéal féminin et j'ai pas du tout fait...
C'est pas de type de femme,
oui,
pas forcément d'idéal, mais ça peut se voir.
Ah oui, d'accord. Mais dans le type de femme, il peut y avoir aussi physiquement, en
Bien
fait.
Bien sûr. Souvent les réponses sont physiques, hein, sont pas des critères intrépides ou comme tu les décrivais. C'est après l'interprétation de chacun.
Ouais, mais c'est vrai que j'ai eu longtemps un type de femme et donc depuis peu, là, depuis un an et demi, j'ai découvert qu'en fait je n'aimais pas un type de femme, mais j'étais amoureux du corps de la femme que je désire à ce moment-là, en fait.
Donc t'as découvert d'autres types de corps.
Ouais.
Ça t'a ouvert un champ des possibles, du coup.
Ouais.
J'imagine.
Exactement.
Ok.
Et puis ça m'a fait me rendre compte que ce qui me plaît par-dessus tout, c'est la féminité, en fait. C'est pas tellement qu'elle soit comme ci, comme ça, physiquement ou dans sa tête. En fait, il y a un truc assez global dont je suis totalement en admiration.
D'accord, la féminité.
La féminité. Et ça peut être valable chez des amis, des amis eux, sans arrière-pensée de désir, de pulsion sexuelle, mais d'aimer cette sensibilité-là de la femme.
Ok, je comprends. Ça m'amène à te demander, tu peux me citer des choses, trois choses par exemple chez les femmes, ça peut être un geste, ça peut être une odeur, ça peut être, enfin après je te laisse répondre, mais est-ce qu'il y a trois choses qui toi te bouleversent forcément chez une femme?
Ce qui me bouleverse, ce qui peut vraiment me faire tomber amoureux entre guillemets en un regard, c'est des mimiques de visage, des petites expressions très précises et très singulières. Pas un clin d'œil ou pas quelque chose qu'on connaît tous, voilà, chacun a sa manière de le faire, mais vraiment la petite particularité dans le visage, ça me fait chavirer complètement.
Okay.
Parce que le but, ça va être de retrouver ça, donc d'essayer de comprendre quand est-ce que ça vient. Trois, je ne sais pas si je pourrais t'en citer trois.
S'il n'y en a pas d'autres.
Mais peut-être que... la spontanéité. La spontanéité chez une femme est quelque chose qui me touche énormément.
Ok.
Ce côté non réfléchi qui fait d'elle quelqu'un d'encore plus mystérieux, en fait. Ça, j'aime, ça me touche énormément chez une femme. Et enfin, je sais pas, c'est un peu bateau, mais enfin, les trucs de filles, quoi.
les trucs de filles.
Non, mais je sais pas, ces espèces de petits détails, en fait, elles ont toujours un rouge à lèvres dans le sac à main. Elles ont, il y a toujours des petites choses. Alors, ça peut paraître un peu futile, mais à un moment donné, elles vont. T'es au resto, tu vas aux toilettes, tu reviens plus vite que ce qu'elle pensait, et elle est en train de se remaquiller. Ça, c'est des trucs de filles qui me touchent énormément, ouais, aussi.
Mmh, je comprends, c'est mignon, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses chez les garçons qui sont touchantes aussi, mais je comprends. On n'a pas du tout parlé, avant d'entamer demain, l'homosexualité. C'est oui. Quelque chose qui t'a traversé.
Ouais, je me suis posé des questions... Bah notamment quand mon père m'a dit qu'il avait eu une expérience homosexuelle.
Ton papa te parle très librement.
Oui.
C'est extraordinaire.
Bah ouais.
C'est génial.
Ouais, c'est super.
Parce que t'as 33-34, donc j'imagine que ton papa a autour de 60 ans.
Oui, beaucoup plus. Enfin, 67.
Oui, donc proche 70 ans.
Ouais.
C'est super de cette génération d'être aussi ouverte et dans la discussion.
Bah ouais, ouais. En fait... ça faisait partie de l'épisode de la main sur la cuisse et bon, tu en es où et si jamais tu aimes les hommes, tu peux nous le dire, quoi. Et sache que ton père a eu une expérience homosexuelle.
Il parle de lui à la troisième personne.
Non, mais oui. mais donc, du coup, il m'a raconté ça et il m'a dit que, du coup, cette expérience lui avait permis de comprendre qu'il n'était pas attiré par les hommes, quoi.
Ok.
Voilà.
Très, très grande ouverture d'esprit, ce ouais. Papa.
Ouais, parce que... année hippie...
avec 68 ans.
Voilà, et donc des copains homosexuels qui l'affirment, okay. Et donc je pense qu'il a dû se poser la question. Puis mon père est quelqu'un d'assez sensible, tout comme moi, et on se pose cette question. Et je me la suis posée il n'y a pas longtemps, parce que j'étais à une soirée avec des homosexuels et qui étaient très tactiles avec moi, et sans aucune arrière-pensée sexuelle, sans aucun désir, je me suis... j'ai vraiment... comment dire, j'ai donné de l'importance à ce geste, okay. De la main sur moi, en me demandant si ça me faisait quelque chose aujourd'hui. J'ai remis en question ma sexualité, je te parle de ça, c'était il y a 2 semaines.
Après, c'est pas forcément ta sexualité, ça peut être
non.
À ce moment-là, avoir envie de faire cette expérience-là.
Oui, peut-être,
tu vois, c'est une vrai. Pratique n'est pas forcément une sexualité.
Effectivement.
Et ça peut être une expérience que tu as envie d'avoir. Mais j'ai l'impression, après, c'est encore une fois, hein, c'est avec mon petit prisme, mais... qu'une nana qui va faire une expérience homo, c'est une expérience. Mmh. Un mec qui va faire une expérience homo, ça va être beaucoup, ça va peser beaucoup plus lourd dans la balance ouais. De la société, alors qu'en fait, t'as pas eu d'expérience à plusieurs ? T'as déjà eu des plans à trois ?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment ?
Non,
pas.
On était quatre, mais c'était chacun sa partenaire.
D'accord, côte à côte.
Ouais.
Ah oui, intéressant.
Ouais, mais c'était...
En ouais. Se matant ou pas du tout, chacun faisait sa petite affaire ?
Non.
Ok.
C'était pas là-dessus.
D'accord.
C'était juste parce qu'on n'avait pas d'autre endroit où aller, donc on s'est mis à faire ça.
Dans la pratique.
Dans le même lit, quoi, voilà.
Dans le même lit ?
Ouais.
Ah oui. C'est pas que c'était un grand lit, quand même.
Non. D'accord. C'était un clic-clac déplié, ouais.
Ouais, faut être.
Ouais, ouais, non, c'est ma seule expérience à plusieurs.
Qui n'est pas vraiment, du coup.
Qui n'est pas vraiment, du coup.
Ok, mais du coup, si demain tu te retrouves dans une histoire à trois, enfin pas forcément une histoire sentimentale, mais tu te retrouves dans un plan à trois et c'est un autre garçon, tu y vas.
Très franchement, j'en sais rien. Ça me là comme ça me dit rien. Mais je sais pas. Franchement, j'en sais rien.
Et avec deux filles ?
Bah écoute, j'ai envie de te dire un peu pareil.
Mm-hmm.
C'est que, en fait, je crois que j'aime bien l'exclusivité. Et avec deux filles, évidemment, tu vois, quand je regarde des vidéos porno, parfois...
Tu regardes encore beaucoup de porno ?
Pas beaucoup, mais en fait, chez moi, c'est toujours très mécanique. Quoi. Enfin, si,
d'accord.
Voilà,
il y a un but précis pour quand tu regardes du porno.
Ouais, j'ai besoin de me soulager, ça va me faire du bien. Et, Et donc, je regarde un porno pour faire
ce qu'il faut.
Ce qu'il faut. Mais du coup, ouais, j'aime bien les scènes avec deux filles et un garçon. Et puis à chaque fois, je me dis, ah ouais, ça doit être génial. Mais en fait, dans la vraie vie, là, je t'avouerai que je sais pas, en fait. Je trouve ça déjà tellement complexe à deux. Mm-hmm. Rajouter encore quelqu'un, pouf.
C'est sport.
Ouais.
Donc, on a parlé de la fidélité. On a parlé de tes fantasmes, enfin, plus ou moins, ce qui te plaît. Tu te vois comment, par exemple, à l'âge qu'a ton père aujourd'hui, à 67 ans, la sexualité aura une place importante ?
Ben, je pense, ouais, toujours. Hein. C'est quand même... ça me suit, c'est assez...
Tu parlais d'étapes tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu as passé comme étape récemment ?
Ben, récemment, c'est très particulier. J'ai découvert qu'être avec quelqu'un de très inexpérimenté, qui est à mon âge, pouvait en fait complètement se retourner contre moi.
Donc tu es dans une relation en ce moment ?
Non, j'ai été là dans une relation avec une personne de mon âge qui a déjà des enfants, qui, si tu veux, comme ça, sur le papier, est une femme très épanouie, très, très bien construite. Et une fois qu'on se retrouve dans le lit, je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas. Et ouais. Qu'à part le missionnaire, si tu veux, elle ne connaît rien du tout. Et en fait, j'ai joué un peu ce rôle auprès d'elle de
mentor du sexe.
Mentor, découvreur de talent. Mais en fait, ça s'est très vite retourné contre moi. Enfin, pas contre moi, mais elle a dit oui à tout, tout le temps. Et donc okay. Là, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui n'a aucune... En fait, elle attendait que ça dans sa vie.
Quelqu'un qui l'a... Pardon, mais qui l'a secoué un peu.
Voilà.
Elle a été longtemps en couple, j'imagine.
Exactement, ouais.
Très longtemps.
Très longtemps.
Elle a eu ses enfants.
Voilà. Voilà.
Et donc là, elle trouve un jeune amant. Enfin, un amant qui a son âge, mais voilà. Qui est un peu plus...
Bah, qui, du coup, est un peu plus... fougueux, tout ça. Puis, avec cette personne, il y avait quelque chose de physiquement... Une attraction physique très intense. On ne pouvait pas se retrouver dans la même pièce sans penser à...
Ok, à sauter l'un
ouais,
sur l'autre.
Au sexe, quoi, okay. Vraiment. Et donc du coup je lui ai proposé des trucs, elle a tout de suite dit oui, donc j'ai proposé plus, encore plus, encore plus, et en fait tellement que...
Quand tu dis, alors on va pas rentrer dans les détails parce que ça c'est ta vie intime et je te sais assez pudique là-dessus, mais c'est des choses qui restent quand même plutôt classiques ou enfin à mesure d'une sexualité plutôt libérée, hein, parce que pour elle j'imagine qu'à chaque fois tu passais des étapes, mais...
Non, mais avec elle par exemple pour la première fois j'ai expérimenté... des objets, des jeux de masques, des fessées.
Et elle a dit oui à tout.
Ouais. En fait, moi, si tu veux, c'est des choses qui m'auraient bien plu, mais j'étais plutôt dans l'attente de quelqu'un qui me montre.
D'accord.
Et là, je me suis retrouvé à devoir montrer, alors que je ne savais pas, je maîtrisais pas le sujet, mais au final, c'était pas plus mal parce qu'on était tous les deux dans la découverte de ça
oui,
ensemble.
Okay. Et un peu novice dans en la matière, donc vous avez fait vos premiers pas ensemble.
Voilà. Et ça, c'était vraiment génial. Et donc, je me suis rendu compte que quelqu'un d'inexpérimenté, en fait, c'est pas forcément l'expérience qui compte, c'est juste d'en avoir envie et d'avoir envie de le partager oui. Au même moment avec la même personne.
Et en confiance absolue.
Voilà. Et okay. Ça, c'était fantastique. Et tu parlais d'étapes à la base. Et une super étape de plus, là.
Donc là, t'as l'impression d'avoir passé une nouvelle étape dans ta sexualité.
Complètement. J'ai hâte de continuer à expérimenter ça avec d'autres femmes, ouais.
Ok.
Ouais.
Donc ça va être le futur du coup.
Bah ouais.
Tu crois au mariage ?
Joker.
Non mais tu peux hein, le sortir, tu l'as pas sorti.
Je crois au mariage, j'en sais rien. Non, je crois pas au mariage.
On se connaît quand même assez, je te sais tellement romantique, tellement impliqué dans tes histoires, tellement t'embrasses tellement et t'es tellement entier quand tu aimes quelqu'un. Que j'imagine que pour toi, le mariage a une valeur et une sacralité qui fait que...
Ça... Oui, mais j'ai toujours ce truc de... C'est peut-être un peu idiot, mais que ça t'enlève une certaine indépendance, une certaine liberté. Bon, j'ai des parents qui ne sont évidemment pas mariés. Et je ne sais pas... Je peux être très investi, très amoureux, très dans l'intensité de la relation et du jour au lendemain partir en fait, faire d'autres choses.
Et le mariage t'en empêcherait ?
Le mariage compliquerait les choses, ouais.
D'accord, plus que des enfants par exemple ?
Oui, beaucoup plus.
Ok, ça, ouais. C'est intéressant que tu aies cette vision-là.
Beaucoup plus. Je préfère largement aujourd'hui rencontrer une femme et avoir des enfants avec elle que me marier, ouais.
Ok.
Oui, parce que je crois en ce côté, l'enfant de l'amour qu'on a eu et qu'on aura toujours ensemble. Et... Ouais.
Tu penses que l'érosion du couple, c'est inévitable ?
Ouais, maintenant, oui.
Ok. Tu l'as vécu en plus ?
Je l'ai vécu, ouais, vraiment pleinement.
Et tu penses que après cette histoire, tu auras les cartes, enfin en tout cas, tu verras à ce que ça n'arrive plus.
Ouais, je pense. Mais tu vois, par exemple, ma toute dernière relation dont je te parlais, d'épanouissement commun là, sexuellement, je voulais, enfin, elle a très vite voulu qu'on s'installe ensemble, et moi, c'était juste pas possible, quoi. Donc, mais ça, c'est, la marque de l'érosion de ma relation d'avant, si tu veux. Il y a plein de choses qui ont changé. J'envisage plus du tout le couple de la même manière, quoi.
Maintenant, tu l'as pratiqué de façon un peu tradie.
Ouais, exactement.
T'as envie de quelque chose qui te ressemble plus, peut-être.
Ouais, exactement.
C'est vrai que parfois, on fait les choses parce que... parce qu'on a cette chape qui fait qu'il faut tout de même en couple. Et puis c'est vrai que dans des grandes villes comme Paris, pour des raisons de coût, c'est plus facile de vivre à deux tout de suite, etc.
Ça, c'est terrible. Hein.
Ouais. Et parfois, on fait des choix par obligation, parce que c'est des clous. Parfois, on n'en a même pas conscience, alors que finalement, on ne s'écoute pas vraiment. Mm. Et ça, effectivement, ça peut être parfois le début de quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est très subtil, mais ça peut être le début de la fin. Ok, transition. Le mot de la fin, c'est quoi ?
Le mot de la fin, pour moi, ça serait le mot passion.
Ouais.
Voilà.
Ça te résume bien.
Merci.
Merci infiniment.
Merci à toi.
Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à partager cette discussion que j'en ai pris à échanger avec mon invité, que je remercie encore une fois infiniment pour sa confiance. Je vous invite à suivre le compte Instagram On The Verge Podcast. Et si vous avez le temps, merci de donner votre avis sur iTunes. Ça permet de donner plus de visibilité au podcast. À très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.